Bien, bonjour à toutes et à tous, et donc à chacun et chacune d'entre vous. Je suis heureux de pouvoir ce matin vous apporter la parole de Dieu. À vrai dire, la parole de Dieu et un commentaire sur la parole de Dieu, étant entendu que la chose la plus importante, c'est la parole de Dieu. Pour le reste, suivons aujourd'hui, comme les autres fois, l'exhortation de l'Écriture qui dit « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon ». Je veux juste rajouter qu'après cette première partie du culte, je trouve qu'on en a déjà, on a déjà reçu beaucoup. Et moi, j'ai été édifié. Et puis, j'ai découvert un talent que je ne te connaissais pas, là. Mais c'est ainsi comme ça. Alors, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que l'actualité est plutôt morose. Et que si vous lisez les journaux, écoutez la radio, regardez les informations à la télévision, le mot peut-être qui vient le plus facilement à l'esprit, c'est guerre. C'est guerre. Insécurité. Ça s'agite de partout. Et les combats qui sont menés en Orient en ce moment ne sont pas sans répercussions sur notre propre quotidien. C'est pas la peine d'en dire plus, nous le savons. Alors ce qui se passe chez les chrétiens, quelquefois, souvent, de temps en temps, vous cochez la case où vous vous sentez concerné, c'est dès le moment où il y a des événements dramatiques, et je les minimise pas du tout, dès le moment où il y a des événements dramatiques dans notre monde, et en particulier sur la terre d'Israël et aux alentours, alors, vous avez des spécialistes qui se lèvent ici ou là pour commencer à vous dire que tel événement, voire même tel personnage, correspond à tel passage dans la Bible et tel événement prescrit. Ça dénote au moins un désir de voir la parole de Dieu s'accomplir. Et ça dénote aussi cette aspiration à ce que le Seigneur que nous célébrons, dont nous avons rappelé ce matin la mort et la résurrection, eh bien que ce Seigneur revienne comme il a promis. Et la question, en fait, n'est pas nouvelle. Et nous sommes en bonne compagnie, en tout cas, si nous nous interrogeons sur « Mais alors, Seigneur, quand est-ce que tu vas revenir ?» Dans l'évangile de Matthieu, dans les chapitres 24 et 25, nous avons toute cette problématique qui est exposée de manière très, très particulière et qui est exposée suite à une question que les disciples posent. C'est au tout début du chapitre 24. Comme ils étaient assis sur le mont des Oliviers, ses disciples le prirent à part et lui demandèrent « Dis-nous, quand cela se produira-t-il ? Et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?» Voilà la question. Et maintenant, dans les deux chapitres, 24 et 25, Jésus va répondre à cette question. Alors nous n'allons pas lire tout le chapitre 24 et tout le chapitre 25, mais on va lire les versets 14 à 30 du chapitre 25. En pointant tout de suite, mais vous le savez, c'est que quand Jésus veut dire des choses importantes. Quand Jésus veut nous faire cheminer et nous instruire, il raconte des histoires. Je n'ai pas dit qu'il raconte des blagues, mais il raconte des histoires, des paraboles. Nous, on fait des thèses dans notre système de pensée. Lui, Jésus, il raconte des histoires. Pour essayer de nous faire entendre quelque chose de l'indicible. Quelque chose de l'indicible, puisque il évoque l'avenir, et par définition, l'avenir, on ne le connaît pas. Alors, nous lisons au chapitre 25, le verset 14 et suivant, où Jésus, pour répondre à la question, dit « Eh bien, il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2, à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis, il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui avait reçu 2 fit de même et il en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'avait reçu qu'un lingot, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apporta les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés, et il dit, « Maître, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres, les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes, viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussitôt et dit, « Maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres, les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance, tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes, viens partager la joie de ton maître. » Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur. Je suis allé cacher ton argent dans la terre. Le voici. Prends ce qui t'appartient. » Mais son maître lui répondit, « Vaurien, fainéant, tu savais que je moissonne où je n'ai rien semé, que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences? Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. » Alors cette parabole que beaucoup parmi vous connaissent, parabole qu'on raconte aussi à l'école du dimanche, hein, c'est facile de faire une scénette autour et de faire jouer les enfants, vous savez ça. Cette parabole donc, je me répète, elle fait partie du chapitre 25, et les chapitres 24 et 25 qui parlent du retour du Seigneur. Et en substance, dans ces chapitres, il y a quelques vérités basiques qui sont rappelées et qui sont, me semble-t-il, suffisantes. La première, c'est que le Seigneur reviendra. Il l'a promis. Il reviendra. La seconde, c'est qu'il reviendra soudainement. Et que nul ne sait ni le jour ni l'heure. C'est ce que disent l'ensemble de ces chapitres. La troisième vérité affirmée dans ces 2 chapitres, c'est que pour les chrétiens, ça peut s'avérer être compliqué. Et peut-être même très compliqué. Et juste ce que nous pouvons percevoir de la situation de certains de nos frères et sœurs dans certains pays peut nous donner une petite idée de ce qui arrivera d'une manière ou d'une autre. L'autre élément, c'est que face à tout cela, il y a cette exhortation à être prêt. Et on le voit notamment dans les paraboles qui ont précédé, celles que nous venons de lire. Être prêt. Prêt à accueillir le Seigneur quand il viendra. Prêt aussi à l'attendre et à rester vigilant. Et puis l'autre élément, c'est qu'il faudra rendre des comptes. Et comme l'apôtre Paul le dit dans une de ses épîtres, nous devrons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Alors pour les anxieux, rassurons-nous, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix et qui nous a été illustrée tout à l'heure par cette bouteille est efficace. Mais il n'empêche que nous aurons à comparaître les uns et les autres devant le tribunal de Christ. Et probablement que la question qu'il nous posera, c'est ben, « Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné ?» Et si nous bafouillons, laissons parler notre avocat à la place, qui dira « C'est mon client, c'est mon client, l'affaire est réglée. » Sauf que j'en profite quand même pour le dire, sait-on jamais. L'affaire se règle maintenant, elle ne se réglera pas plus tard. Et que si donc l'un ou l'autre d'entre nous se dit « Ouais, où est-ce que j'en suis avec le Seigneur ?» C'est le moment de lui ouvrir son cœur et de lui dire « Me voici Seigneur devant toi, prends ma vie, pardonne mes fautes et conduis-moi. » Alors la parabole que nous avons lue, je ne vais pas la résumer, ce serait secondaire, mais je crois qu'elle nous dit des choses sur Dieu et sur nous, et que c'est bien peut-être de nous en souvenir. La première chose qu'elle nous dit sur Dieu, et qui est peut-être la chose la plus extraordinaire qui soit, parce que vous avez bien saisi que le maître, c'est une manière de parler de Dieu, et que les serviteurs, c'est une manière de parler de nous. La chose qui est extraordinaire, et que peut-être nous avons du mal à entendre, et peut-être du mal à en tirer les conséquences, c'est que Dieu est le plus grand croyant qu'il soit. Il croit, du verbe croire, en nous. Et si vous vous amusez à prendre le temps et de parcourir votre Bible, vous allez voir que on parle dans la Bible de la foi de Dieu. Oui, Dieu a la foi. Et on parle de nous qui sommes invités à avoir la foi. Et c'est les mêmes mots, ce sont les mêmes verbes. Dieu croit en nous. Dieu nous fait confiance. Dès la création, et on ne va pas revisiter l'ensemble de l'Écriture, mais dès la création, Dieu place Ève et Adam dans le jardin, enfin c'est dans le sens contraire, mais... Et il leur dit, allez-y, cultivez, croissez, multipliez-vous. Et peut-être que les plus méridionales parmi nous traduiraient ça par régalez-vous. Dieu croit en nous. Il donne à ses serviteurs. Et il s'en va. La seconde chose qu'on apprend sur Dieu, c'est qu'il est généreux. Il y a des gens qui se sont amusés à calculer ce que ces lingots pouvaient valoir. Même celui qui n'a qu'un lingot a quelque chose de l'ordre de 200 000 euros. Alors je pense que le trésorier de l'Église serait heureux d'avoir 200 000 euros dans l'offrande, mais que chacun d'entre nous, si on recevait comme ça, ne serait-ce que 200 000 euros, on serait content. Alors je ne parle pas si c'était 400 000 ou 1 million d'euros. Dieu est généreux avec nous. Et alors ça heurte un peu nos conceptions, nos idées, les discours qu'on peut entendre. Dieu n'est pas rabougri. Dieu n'est pas quelqu'un qui vient nous compresser, nous frustrer. Il offre la vie. Et il le fait de manière généreuse. La troisième chose qu'on apprend sur Dieu au travers de ce maître, c'est qu'il nous connaît. Pour la sécurité sociale, nous sommes des numéros. Et derrière un numéro, même s'il y a une vie, celui qui est en train de taper les numéros ne sait rien de nous. Nous ne sommes pas un numéro pour Dieu. Dieu nous connaît. Et ce qui est assez formidable dans cette parabole, c'est que le maître donne à chacun selon les capacités qu'il a. Ça veut dire que Dieu sait jusqu'où je peux aller. Ça veut dire que Dieu sait ce que je peux supporter. Ça veut dire que Dieu sait quelles sont les capacités qui sont les miennes et là où elles seront le mieux exploitées. Ça veut dire aussi, rappelez-vous de ce texte, qu'il sait jusqu'où nous pouvons supporter la tentation. Et le texte rajoute qu'il prévoira un chemin pour qu'on en sorte. Voilà quelque chose d'assez libérateur. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je ne suis pas comme l'autre. Et la question, justement, ce n'est pas d'être comme l'autre. La question, ce n'est pas de se comparer. On n'est pas des sportifs qui sommes en train de faire des exploits et qui sommes en compétition les uns par rapport aux autres. Non. Dieu me connaît, sait quelles sont mes capacités, sait quels sont les dons que j'ai, sait quelles sont mes forces et mes limites. Il ne me demande pas de les dépasser, il me demande de les exploiter. Vous voyez la différence? Il ne me demande pas d'être un surhomme ou un super chrétien, il me demande d'être juste, juste un chrétien, c'est-à-dire un disciple de Jésus. Et puis l'autre élément qu'on apprend sur Dieu, et qui reste problématique, c'est que le maître s'absente, et qu'a priori, il s'absente longtemps. Je veux dire un mot là-dessus. Je veux dire un mot parce que, moi en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, il y a un certain nombre de situations où je me dis « Où est Dieu ?» Il y a un certain nombre de situations, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient autres, où je me dis « Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire ?» Ou plus exactement, « Qu'est-ce que Dieu ne fait pas ?» Oui. Nous pouvons avoir à certains moments le sentiment que Dieu n'est pas là, Le sentiment que Dieu ne nous entend pas. Le sentiment que Dieu s'occupe d'autre chose et que nous n'avons aucune importance à ses yeux. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et le mot le plus important dans la phrase que j'ai prononcée avant, c'était « nous avons le sentiment que ». Mais le sentiment, pardon de ce jeu de mots facile, le sentiment. Dieu a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, non, Dieu n'est pas absent, mais il nous laisse cet espace de liberté dans lequel il dit « exploitez les dons que je vous ai donnés », tout simplement. Alors justement, nous, qu'est-ce que dit ce texte? Au travers de ces trois serviteurs, on va dire les deux bons et puis le mauvais, pour qu'on se repère de manière un peu schématique, qu'est-ce qu'il dit? D'abord, c'est que nous sommes appelés à la liberté et à la responsabilité. C'est énorme comme responsabilité, mais c'est ça. Les capacités que Dieu m'a données, Dieu me dit, exploite-les. Alors, pas n'importe comment, mais exploite-les. Et vous voyez dans l'Église, Paul aux Éphésiens le rappelle, il a donné aux uns ceci, aux uns cela, et Paul aux Romains le redit aussi. Nous avons des dons, les uns, les autres, des capacités, et pas nécessairement des choses extraordinaires, mais des choses qui font que nous pouvons vivre ensemble et que nous pouvons nous développer. La seconde chose, pour nous, qui est importante à entendre, c'est que Dieu n'est pas injuste et qu'il ne nous traite pas donc de manière injuste. Il prend en compte ce que je suis et il me fait aller dans un sens ou dans l'autre en fonction de mes capacités. Ce qui veut dire que nous n'avons pas à devenir des clones, des espèces de reproductions systématiquement de l'un et l'autre. Parce que dans sa création et dans sa grande sagesse, Dieu a mis en chacun d'entre nous des choses qui ne sont qu'en nous. Alors on n'est peut-être pas extraordinaire, mais on est unique. Et puis, c'est que nous sommes appelés à la fidélité. Vous avez entendu le maître, le verdict qu'il pose quand il reçoit ses serviteurs et que ses serviteurs lui rendent compte. C'est bien bon et fidèle serviteur. Voilà ce qui nous est demandé. Et si nous avons besoin d'un slogan pour qualifier notre vie, si nous avons besoin d'un programme pour pouvoir avancer, il peut se résumer dans ces deux mots. Être bon et fidèle. Bon et fidèle. Et l'ensemble du témoignage de l'Écriture, et pas uniquement, mais en particulier, tout ce que nous lisons dans les Épîtres, et notamment dans les exhortations des Épîtres, l'une nous a été lue tout à l'heure, ça nous aide à être pratique dans cette bonté et dans cette fidélité. Maintenant, on court un risque, et c'est le troisième serviteur qui le met en évidence. Vous avez remarqué? Il se défend, le troisième serviteur. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je savais que tu es un maître dur, etc., qui ne moissonne pas, et j'ai pris peur. » Alors, derrière ces deux expressions, il me semble qu'il y a un piège qui nous est tendu et que nous rencontrons très souvent dans notre existence. D'abord, ce que moi je vais appeler, je ne suis pas le seul à le dire comme ça, les fausses croyances. Au risque de vous choquer, moi je pense qu'on sait de moins en moins de choses. En tout cas, moi, je sais de moins en moins de choses. Parce que Dieu ne nous révèle pas tout. Et que ce que je constate, c'est que quelquefois, je peux me bâtir tout un système de pensée qui peut avoir l'air d'être correct, qui peut avoir l'air de tenir la route, mais qui n'est pas forcément conforme à ce que Dieu est. Je suis frappé par ces textes dans l'Écriture où Dieu dit à l'homme, mais attends, où est-ce que tu étais quand j'ai fait la création du monde? Où est-ce que tu étais, ceci, cela? Ou qui a connu le conseil de Dieu? Méfions-nous donc quelquefois de mauvaises et fausses croyances que nous pouvons avoir. Dieu est au ciel et nous sommes là. Nous en avons assez pour pouvoir avancer. Mais ayons l'humilité de savoir qu'on ne peut pas enfermer Dieu dans nos systèmes, dans notre pensée, dans les images que nous avons. Et cette fausse croyance, chez cet homme-là, va introduire impliquer de l'incrédulité, parce qu'en fait, il ne connaît pas Dieu, il a une fausse idée de lui, et va entraîner chez lui de l'arrogance. À son maître, voilà comment il parle. Il lui dit en clair, tu es un pourri. Or, le maître n'est pas comme cela. Et puis l'autre chose, c'est qu'il a pris peur. Depuis que Jean-Paul II a prononcé ces phrases, le monde entier les a connues, les attribuant à Jean-Paul II alors qu'elles viennent de Jésus lui-même. Mais n'ayez pas peur. Nous avons des raisons d'avoir peur, mais pas de Dieu. Non, 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 non. La crainte de l'Éternel, c'est autre chose que la trouille. C'est tout simplement vivre aussi fidèlement que possible, aussi droitement que possible, aussi justement que possible. Alors, quatre questions peut-être pour terminer. Pour prendre un peu de hauteur par rapport à cette parabole qu'on est loin d'avoir commentée totalement. La première, est-ce qu'on peut savoir l'avenir ? Est-ce qu'on peut savoir l'avenir ? Je n'ai pas osé dire, est-ce qu'on peut prédire l'avenir ? Là, j'espère que tout le monde est clair là-dessus. Dieu dit, pas de ça chez moi. Non, mais est-ce qu'on peut ? Et la façon dont Jésus répond, elle est un peu agaçante. Il ne dit pas, écoutez, premièrement, deuxièmement, il dit, il en sera comme. Il parle par parabole, par analogie. Et plus encore, il va dire, nul ne sait ni le jour, ni l'heure, ni les moments, même pas le Fils. Alors, restons sur terre, les amis. Hein. Nul ne sait. Donc, inutile de se torturer, inutile de rechercher je ne sais trop quelle correspondance, ou en tout cas, de commencer à bâtir des systèmes qui, pour moi, en tout cas, me paraissent complètement illusoires. Et si vous lisez ces chapitres 24 et 25, Jésus le dit clairement, mais ce sera comme du temps de Noé. Et puis ça se fera de manière soudaine. Donc, ma foi est mise à l'épreuve, là. Je sais que tu reviens, Seigneur. Je sais que je serai moi aussi, si je suis encore vivant, pris par surprise. Mais bon, je t'attends. Et dépêche-toi. Et dépêche-toi. Parce que j'ai pas envie de subir tout ce que je crois discerner dans ton texte. Et parce que je trouve que la vie est de plus en plus pesante. Et Jésus me répond en me disant, j'entends, mais appuie-toi sur moi. Parce que j'ai promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que je crois en toi et que je suis aussi fidèle, moi, à mes engagements vis-à-vis de toi. Deuxième question, est-ce que Dieu est injuste ? Alors on a les réponses du catéchisme. Non, Dieu n'est pas injuste. Il faut juste qu'on se les applique à nous-mêmes et qu'on ait ce principe, Dieu n'est pas injuste. Peut-être que quand nous pensons que Dieu est injuste, c'est que nous confondons inégalité et injustice. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Troisième question. Est-ce que finalement, le troisième serviteur n'a pas raison ? Dieu n'est-il pas un maître dur ? La réponse est non. Et je vous renvoie tout simplement à ce que les psaumes, mais aussi le Nouveau Testament, nous rapportent en disant qu'il ne nous traite pas comme nous le méritons. Vous vous rendez compte ? Mais arrêtez 30 secondes, réfléchissez à votre vie, à vos pensées, à vos actes, ou à ce que vous n'avez pas fait. Si Dieu était vraiment dur, personne ne pourrait rester ici sur ces bancs. Personne. Mais Dieu ne nous traite pas comme nous le méritons. Et plus encore, il use de patience envers tout, dit l'Écriture, voulant que le maximum de personnes soient sauvées. Et alors la dernière question, est-ce que Dieu attend quelque chose de nous ? Dans la lettre que Paul écrivait aux Corinthiens, au chapitre 4, il dit, ce qu'on attend d'un gérant, c'est qu'il soit fidèle, tout simplement. Fidèle au mandat qu'on lui a donné. Et qu'il remplisse la mission qui lui a été assignée. Et nous sommes des gérants, tous. Avec plus ou moins de moyens, mais avec les moyens dont nous sommes capables. Et ce que Dieu nous demande, c'est tout simplement d'accomplir fidèlement la tâche qui nous a été demandée. Et elle peut se résumer par des textes que vous connaissez bien aussi, mais que je mentionne juste maintenant. Être tout simplement le sel et la lumière là où nous sommes. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas partir aux extrémités de la terre, mais commençons déjà chez nous, là où nous sommes. Être aussi, comme le dit le prophète Michée, de ceux qui pratiquent la justice, qui aiment la miséricorde et qui marchent humblement avec Dieu. Et peut-être que Paul aux Philippiens le dit d'une autre manière quand il dit « Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, de l'appel qui vous a été adressé. » L'appel qui a été adressé à chacun, même si pour l'un ou l'autre, cet appel va se traduire, se concrétiser par ce qu'on appelle un engagement à plein temps. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Il n'y a pas de super et de moins bon. Il y a des serviteurs dans tous les sens et à tous les niveaux qui sont là pour faire rayonner la parole de Dieu. Alors mes amis, si nous avançons comme ça, sans doute qu'au temps marqué, nous entendrons la voix de notre Seigneur qui nous dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur, c'est bien, bonne et fidèle servante. Tu as été fidèle en peu de choses, la modestie. Pourtant j'ai cru faire non en peu de choses. Mais c'est ce qui t'était demandé. Entre dans la joie de ton maître. » Amen. Amen. Je vous invite à quelques instants de recueillement, de silence. Seigneur, merci pour la grâce que tu manifestes à notre égard. Merci pour la connaissance que tu as de chacun d'entre nous et pour le soin que tu veux prendre de notre vie, à tous les niveaux, quels qu'ils soient. Seigneur, merci aussi parce que elle est vraie, cette parole que tu nous donnes, ce que tu nous ordonnes. Alors nous confessons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais qu'avec toi, Seigneur, oui, nous pouvons avancer dans la droiture et dans la fidélité. Merci Seigneur, parce que toi tu es fidèle à tes engagements à notre égard, parce que tu dis ce que tu fais, parce que tu restes le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que cette stabilité, c'est notre garantie. Oui Seigneur, nous te rendons grâce, parce que tu veux nous aider à continuer le chemin, nous aider à ne pas être dans la peur, mais tout simplement dans la confiance en ta parole, en tes promesses. Jusqu'au jour marqué par toi de toute éternité, où tu viendras nous prendre dans ta demeure. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Merci beaucoup.